Décryptage, Marie Cazadebé.
Le groupe État islamique revendique les attentats qui ont frappé le Sri Lanka dimanche. Des églises en pleine fête de Pâques, des hôtels de luxe, plus de 320 personnes ont été tuées, dont plusieurs membres de la famille de cette femme qui assistait aujourd'hui à leurs funérailles à Colombo.
Ils sont allés à la messe en famille, les trois fils avec leurs parents, pendant les attentats à la bombe. Je ne sais pas quoi dire, nous sommes malheureux, c'est dégoûtant, c'est notre famille. Des enfants, des parents, c'est douloureux.
Le I a publié un message ce mardi via son canal de propagande, mais les autorités sri-lankaises accusent un groupe radical local d'avoir mené les attaques. Deux jours après la tragédie, beaucoup de questions restent en suspens sur les liens entre ces organisations et le mobile des attentats. Nos deux invités vont nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Delon Madavant.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes géographe, chercheur associé au Centre d'études sur l'Inde et l'Asie du Sud à Paris et à Montréal, spécialiste des minorités tamoules. Et bonsoir, Azif Arif.
Bonsoir.
Vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialiste du terrorisme, de l'islam et de la laïcité. Vous avez signé Outils pour maîtriser la laïcité en 2017 aux éditions La Boîte à Pandore. Azif Arif, est-ce que c'est un scénario déjà rencontré depuis la naissance du groupe État islamique? Un groupe local soutenu par Daesh pour commettre des attaques, comme ce serait le cas au Sri Lanka.
Alors, je ne sais pas si c'est un scénario qui s'est déjà rencontré, mais en tout cas, si on regarde un peu dans le passé les différentes organisations terroristes qui ont existé, notamment, il suffit pas d'aller pas très loin du Sri Lanka, il suffit d'aller simplement au Pakistan pour voir que, par exemple, le Tehrik-e-Taliban Pakistan, qui est le TTP aujourd'hui, se compose d'un certain nombre de mouvements et qui sont soutenus par d'autres mouvances qui viennent d'Afghanistan. Donc, cette logistique qui consiste à avoir des micro-groupes qui sont des groupes qui peuvent agir sur le terrain localement, c'est une logistique qui se voit dans d'autres groupes terroristes et qui peut très bien se voir avec Daesh. Mmh. Ce qui est un peu plus étonnant, c'est effectivement la taille de ce groupe. C'est parce que son idéologie rejoint en tout point l'idéologie de Daesh. L'idéologie qui est l'idéologie salafiste takfiriste. Attention, là, il faut préciser les termes parce que le salafisme en soi n'est pas une idéologie qui amène un djihad guerrier ou un djihad sanglant. Le salafisme est pour sa plus grande part quiétiste, c'est-à-dire qu'il est d'ailleurs apolitique. Ce type de d'attaques qui sont perpétrées notamment par Daesh ou le TTP s'inscrit dans une mouvance politisante du salafisme. Et donc c'est là que c'est le plus gros problème, puisque l'idée de ces mouvements est également d'être takfiriste, c'est-à-dire décider qui est le bon musulman, qui ne l'est pas. Ce qui aboutit, et on en parlait tout à l'heure, des guerres entre les musulmans, mais également des guerres contre d'autres minorités, comme les chrétiens, comme les ismaélites, comme les ahmadis.
Alors on va justement se tourner vers vous, Delon Madavant, savoir donc ce que l'on sait du National Tawhid Jamaat, j'espère que je prononce bien, le NTJ. C'est le groupe qui est accusé par les autorités sri-lankaises d'avoir mené les attaques de dimanche. Est-ce que son nom vous parle? Et est-ce que vous en connaissez déjà ce groupe avant dimanche?
Alors, il était très peu connu. Il est très récent. Il s'est surtout fait connaître l'année dernière par la dégradation de statues bouddhistes. Donc, à Sri Lanka, où c'est une terre considérée comme une terre sainte bouddhiste, forcément, ça a fait parler. Mais pas au point qu'on puisse attendre à ce qu'il soit capable de réaliser les attentats de dimanche dernier. Il y a un deuxième groupe maintenant, les autorités ont dit que ce groupe-là aurait été aidé par un deuxième groupe local également, dont je n'ai aucune information. Le Jamia Millatu Ibrahim, donc le JMI. Le premier déjà, on le connaissait pas beaucoup.
Ouais. Donc le deuxième, vous découvrez son nom.
Le deuxième, on découvre son nom. Le premier, son leader a en effet apparemment des affinités avec l'idéologie de l'EI. Mais c'est vrai qu'on est ça a surpris beaucoup de monde.
Est-ce que c'est ça qui explique autant d'appels à la prudence hier lorsque le gouvernement a avancé donc le nom du groupe NTJ sur notre antenne, notamment des bons connaisseurs du Sri Lanka se montraient très sceptiques?
Bah alors Il y a deux aspects. Il y a un premier aspect, c'est qu'il y a aussi d'autres mouvements, disons, intégristes à Sri Lanka, et notamment un mouvement intégriste bouddhiste qui avait été soutenu par l'ancien président et qui s'en était pris aux minorités musulmanes. Il y a eu plusieurs émeutes ou attaques de magasins musulmans. Et là, la crainte a été aussi, enfin, l'une des craintes a été sans doute qu'il y ait un déchaînement de violence à l'encontre de la minorité musulmane si des informations erronées étaient envoyées. L'autre élément qui interpelle, c'est qu'il y avait, enfin, l'attaque des musulmans vis-à-vis des chrétiens semble assez étonnante parce que ce sont deux minorités qui ont plutôt été des victimes des groupes bouddhistes intégristes. Il n'y a pas de précédent où ces deux groupes...
ces tensions-là n'existaient pas finalement au Sri Lanka.
Donc la seule hypothèse était en effet que ça soit quelque chose qui vienne de l'extérieur, mais...
Alors, pour revenir à la revendication, Asif Arif, le groupe État islamique donc s'est servi de son agence de propagande, hein, comme à chaque fois, mais cette fois, pas de preuves à l'appui, ni photos, ni vidéos. Est-ce que c'est inhabituel ?
C'est assez inhabituel, et puis, mais je vais vous dire, moi, mon sentiment, c'est que l'enquête sri-lankaise aujourd'hui est assez inhabituelle également. C'est-à-dire que on s'aperçoit que soit il y a des couacs de communication, soit en tout cas, visiblement, c'est pas clair du tout. Parce que jusqu'hier, il y avait, c'était des personnes qui allaient répondre à l'attentat de Christchurch. Aujourd'hui, c'est l'État islamique avec un communiqué à l'appui qui revendique l'attaque. On n'a pas plus de détails parce qu'il y a eu plus de une vingtaine d'arrestations. Enfin, on voudrait en savoir un peu plus sur ces profils. Qui sont-ils ? On sait qu'il y a deux personnes qui seraient liées à ce micro-groupe de Jamaat-e-Tawhid. Alors, je le prononce peut-être pas intégralement, mais qui est ce groupe que l'on connaît. Et on ne sait rien sur la vingtaine d'autres personnes.
Ce mobile, justement, vous le disiez, hein, c'est une information donc qui a été révélée aujourd'hui par le vice-ministre de la Défense sri-lankais. Les attentats de dimanche seraient une réponse aux attaques de musulmans à Christchurch en Nouvelle-Zélande. C'était le 15 mars, donc un terrorisme d'extrême droite ouvrait le feu contre deux mosquées de la ville. Donc il y a eu 50 morts, 10 000 kilomètres entre l'attaque et les représailles. À seulement moins d'un mois d'intervalle, Asif Arif, cette thèse vous paraît-elle crédible ?
Elle me paraît peut-être pas crédible à plusieurs égards, parce que d'abord, si c'est un tout petit groupe, comment il a pu, logistiquement parlant et en termes d'organisation, pu organiser ça en moins d'un mois ? Comment ils ont pu s'organiser dans l'urgence ? Alors, soit ça voudrait dire que ce groupe était il y a deux choses. Opportuniste, parce que il s'est dit qu'il y a eu cette attaque et il faut le faire maintenant parce que le temps de l'information correspond et donc que l'on peut réussir à faire un gros coup. Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que les organisations terroristes ont également besoin d'une grande médiatisation de ce qu'ils font. Parce que cette grande médiatisation va leur permettre de se faire connaître et de faire connaître la terreur qu'ils veulent impulser dans le pays. Et puis, le deuxième élément d'information, ce serait qu'on s'est complètement planté. En réalité, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout une réponse à Christchurch. Et que c'est au contraire des fautes que l'on ne veut pas s'avouer, c'est-à-dire un service de renseignement qui nous avait informé, c'est-à-dire un certain nombre d'informations que l'on avait eues avant, et peut-être que l'on aurait pu un peu mieux anticiper ce type
d'attaque. Alors justement, de l'homme d'avant, est-ce que ça vous a étonné, le Premier ministre sri-lankais, qui reconnaît hier que, je cite, une agence de renseignement étrangère avait alerté le gouvernement de projets d'attaque, et on savait déjà contre des églises catholiques et l'ambassade d'Inde à Colombo. Selon même un quotidien indien, cette agence aurait alerté les autorités même fin 2018. Comment vous expliquez un tel couac, le Premier ministre qui dit qu'il n'a pas été mis au courant, qu'il n'était pas au courant de ces
alertes ?
Alors,
il y a un contexte propre à ce qui s'est passé récemment dans la politique sri-lankaise. C'est que là, on est en fait dans le cas d'un gouvernement d'union nationale. Lors des précédentes élections présidentielles, pour essayer de renverser le président Rajapaksa, qui avait gagné la guerre contre les terroristes, enfin, ce qu'il considérait comme être des terroristes tamouls du Liberation Tigers of Tamil Nilam, il y a eu une alliance entre le leader de l'opposition, l'actuel premier ministre, Vikramasinghe, et un ancien ministre de Rajapaksa, l'actuel président, Sirisena. Mais depuis leur élection, il y a eu une dégradation progressive de leur relation et qui a abouti en octobre par la décision du président de démettre de ses fonctions le Premier ministre et de mettre à sa place l'ancien président de la République de Sri Lanka, Rajapaksa. S'en est suivi 2-3 mois d'instabilité politique. Le Parlement a été suspendu. Les médias ont été pris de force par les supporters de l'ancien président. Et il a fallu que la Cour suprême invalide la décision du président de destituer le Premier ministre pour qu'il y ait un semblant de retour au calme. Mmh. Mais ce qui est intéressant dans la communication, c'est que il y a plusieurs ministres qui sont venus en disant mais en fait monsieur le Premier ministre n'est peut-être pas assez bon pour faire face à cette situation de terrorisme.
C'est ce qui pourrait expliquer, comme disait Asif Arif, une communication assez hasardeuse. Dès le lendemain, il faut trouver des coupables, donner des noms, des mobiles qui peuvent paraître un petit peu hâtifs.
Je pense qu'il y a déjà des clans, les pro-présidents, les pro-premiers ministres. Il y a les élections présidentielles qui vont avoir lieu cette année. Mmh. Donc il y a aussi une anticipation et il y a aussi cette image de Rajapaksa avait réussi à venir au pouvoir avec un discours très nationaliste et très dur, en disant que si on l'élit, il viendra à bout des Liberation Tigers of Tamililam. Là, on se retrouve presque dans la même situation. Et à l'époque déjà, Ranil Wickremesinghe, le premier ministre actuel, apparaissait peut-être pas comme l'homme de la situation pour ça, mais pour faire la paix, peut-être.
Asif Arif, un contexte, comme nous le décrit Delon Madavant, c'est un bon terrain, finalement, pour l'organisation de telles actions.
Ouais, et je pense qu'il faut regarder de manière un peu plus large aussi, parce que le contexte, il est sri-lankais, il est aussi indien. En Inde, où vous avez un premier ministre qui, aujourd'hui, base toute sa campagne sur la haine de la minorité musulmane indienne, qui base toute sa campagne sur un nationalisme hindou très fort, et donc il pourrait y avoir des connivences, sinon en tout cas des intérêts communs, entre ce conflit politique que nous décrit très bien monsieur et ce qui se passe en Inde. Mmh. Et d'ailleurs, en Inde, n'oublions pas que Modi s'est mangé la claque de sa vie en allant aller chercher le Pakistan, où il y a eu cette histoire d'avion qui s'est perdu sur la zone du Cachemire. Et on sait très bien que Imran Khan a totalement gagné cette séquence politique. Et donc, en ayant perdu sur ce terrain-là, est-ce que Modi ne va pas instrumentaliser parce que...
Vous parlez de l'Inde parce que justement, ce serait une agence de renseignement, l'agence de renseignement indien qui aurait indien... alerté les autorités sri-lankaises.
Définitivement, il y a cet aspect-là, mais il y a également un autre aspect. Parce qu'une fois que l'on a déterminé qui était à l'origine, Daesh est à l'origine de ça, on va avoir les noms petit à petit, même si c'est un peu titubant en termes de communication. Mais le but du Sri Lanka pour demain, c'est de ne pas ravoir des tensions communautaires comme elles en ont connu pendant la guerre civile. Mmh. C'est ça le plus gros risque. Et aujourd'hui, avec un contexte politique enflammé, avec de l'autre côté Modi qui est dans un contexte politique enflammé, qui va sûrement utiliser cet agrégat de phénomènes pour ses fins politiques, il y a un vrai risque que ça parte en tension au Sri Lanka, en Inde, et ça, il faut absolument pouvoir le contrer rapidement.
Alors pour l'instant, les Sri Lankais sont sous le choc, hein, plongés dans le deuil. Cette religieuse catholique est arrivée en début de journée pour être auprès de sa famille.
J'étais à Rome, en Italie. J'ai réussi à prendre un billet d'avion, le dernier. Je voulais venir pour soutenir ma famille. Ça me fait du bien de voir mon beau-frère. Sinon, je me serais toujours demandé comment il était. Comment il est mort, et j'aurais été malheureuse. Vous voyez comme c'est triste. Je ne sais pas ce qui arrive à notre pays. On était en paix pendant 9 ans. Je ne sais pas ce qui se passe.
Asif Arif, lorsqu'on regarde les lieux visés, des églises et des hôtels fréquentés par des touristes étrangers, est-ce qu'on peut en conclure un amalgame entre la religion chrétienne et l'Occident ?
Écoutez, c'est quand même compliqué de considérer qu'il y a un amalgame entre la religion chrétienne et l'Occident, surtout que les chrétiens sont quand même présents partout dans le monde, c'est une religion maintenant mondiale, etc. En revanche, il y a dans la tête des gens qui sont à la tête de Daesh, etc., une idée que, effectivement, le fait d'aller attaquer des chrétiens, que ce soit les chrétiens d'Orient ou les chrétiens du Sri Lanka, eh bien, va va exciter, va attiser la curiosité et puis également une forme de réplique de la part de l'Occident. Parce que, effectivement, historiquement, on a toujours regardé les chrétiens d'Orient avec attention, on a toujours regardé les persécutions des chrétiens d'Orient avec attention, parce que il y a des liens qui sont anciens entre la chrétienté et le continent européen, et éventuellement américain. Donc, il y a une volonté également d'attirer l'attention, et peut-être de faire la publicité de leur message, qui est très importante ici. Mais attention, il faut rappeler que dans la zone, il y a eu beaucoup de minorités qui ont été touchées par des attentats, et en particulier par Daesh. Je le répète, au Bangladesh, il y a eu les Ahmadis qui ont été frappés par un attentat de Daesh, revendiqué clairement. Il y a quelques jours à peine, des chiites qui se sont fait assassiner au Pakistan. Donc, dans la région, il y a plein de minorités qui sont affectées, mais ce qui attire vraiment notre attention, il est vrai en raison du passé, de l'histoire et de nos liens avec cette minorité en particulier, c'est les chrétiens.
De l'homme d'avant, est-ce que c'est pas ça qui a tout de même surpris le plus au Sri Lanka, que cette communauté chrétienne soit prise pour cible? On parle bien d'une minorité, d'ailleurs, si vous pouvez nous expliquer un petit peu son importance, et pour l'instant, une minorité qui n'avait pas été menacée.
Alors c'est à peu près 7% de la population, donc à peu près un peu plus d'1 200 000 personnes. Sur ces 7 millions, on va dire qu'il y en a à peu près 6 qui sont catholiques, les autres sont protestants ou ils appartiennent à différentes églises évangélistes. En fait, cette communauté a une particularité à Sri Lanka, c'est que c'est la seule communauté où vous avez des Tamouls et des Singhalais, des membres des deux principales communautés de l'île. Alors que tous les bouddhistes sont singhalais, tous les hindous sont tamouls, et les musulmans, c'est particulier, c'est que pour eux, le marqueur identitaire principal, ce n'est pas la langue, mais la religion. Donc vous avez des tamoulophones et des singhalophones, mais pour eux, pour préserver, entre guillemets, cette umma au niveau de l'île, pour eux, c'est l'identité religieuse qui est mise en avant. Et il n'y a pas eu de tension, finalement, entre les musulmans et les chrétiens. Et les chrétiens, finalement, ils sont un peu... finalement, ils sont toujours touchés, finalement, quand il y a des attaques à l'encontre des chrétiens, on touche à la fois. Alors là, avec une petite particularité, les zones où les attaques ont été perpétrées, c'est quand même des zones où il y a un peu plus de tamoul. Kochi Kadeh, donc c'est l'église de Saint-Antoine, la première, c'est l'une des églises les plus révérées par les tamouls de Sri Lanka. Et la messe qui a été visée, c'est une messe qui était en langue tamoule. À Batticoloa, c'est pareil. Alors, Batticoloa, c'est aussi le vivre ensemble qui a été attaqué. Parce que dans ce quartier de Kochikane et Kotaena, la majorité, c'est une population tamoule, mais avec une importante minorité de musulmans qui sont tamoulophones aussi. Et qui vivent depuis des décennies et même des siècles en bonne intelligence, en fait. Il n'y avait pas de tension entre eux, comme je le disais plus tôt. C'est plutôt des groupes intégristes bouddhistes qui s'en prenaient surtout aux musulmans et également à une moindre échelle aux chrétiens.
Pour conclure cette émission, Asif Harry tout à l'heure évoquait justement la peur de tensions communautaires qui n'existaient peut-être même pas au Sri Lanka. Évidemment, un pays qui a traversé donc une guerre civile, donc des tensions communautaires très très violentes. De long Madavan, est-ce qu'aujourd'hui vous les craignez? Est-ce que vous craignez déjà peut-être des représailles contre la communauté musulmane et des tensions qui n'existaient pas, qui vont apparaître?
C'est la véritable crainte, et surtout que ça soit instrumentalisé à des fins électoralistes, parce que le mouvement intégriste bouddhiste n'est pas venu de nulle part. C'est l'ancien président qui l'a vraiment soutenu et qui a soutenu, et c'est pour ça, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles les réseaux sociaux ont été bloqués, c'est qu'il y a eu des attaques contre des populations musulmanes parce que de fausses rumeurs avaient circulé à l'encontre des musulmans.
Ça veut dire que donc les extrémistes bouddhistes pourraient se servir des attentats de dimanche?
Oui, ou certains hommes politiques.
Merci beaucoup, messieurs. De long mois d'avant, donc je rappelle que vous êtes géographe, chercheur associé au Centre d'études sur l'Inde et l'Asie du Sud. Asif Harif, avocat au barreau de Paris. Je rappelle votre ouvrage, Outils pour maîtriser la laïcité, donc sorti en 2017. Et merci à Éléonore Krenik et Claude Battista qui m'ont aidé à préparer cette émission.